Saint Louis, 1214-1270. Saint Louis de Poissy, le bâtisseur. En cette année du 8e centenaire de la naissance de Saint Louis, il apparut opportun de présenter quelques écrits de René Bazin concernant ce roi de France, modèle exemplaire pour l'académicien. Jeune professeur de droit, il était alors membre actif puis président de la conférence Saint-Louis de l'Université catholique à Angers. Il a évoqué en particulier le rôle et l'influence durable de Saint-Louis, bâtisseur de la cathédrale Saint-Denis, dans l'un de ses livres qui connut un vif succès, La douce France, qui parut en 1911. Cette publication venait à son heure, à une époque où les attaques contre la patrie et la foi chrétienne se multipliaient. La fin de ce chapitre reprend également quelques extraits d'un discours prononcé par René Bazin, représentant l'Académie française lors du millénaire de Cluny en 1910. Un soir à Saint-Denis. Un soir du printemps dernier, à cette époque de l'année où la lumière est guettée par les brumes autour de l'horizon, et ne dure que tout en haut du ciel, je suivais une rue de Saint-Denis. Une foule s'y pressait, tout en mouvement vers le souper. Hommes, femmes, enfants, lâchés par l'usine à la même heure, tous appartenant au même monde du travail manuel. Partout des murs noircis par la fumée, des fenêtres violemment illuminées en bas, où sont les cabarets et les magasins, peu éclairé aux étages supérieurs et seulement d'une clarté de veilleuse. Et à l'extrémité, je vis la silhouette noire et grande de la basilique bâtie par Saint-Denis. Je cite « Bonne garde que ce peuple d'ouvriers, pensais-je, lorsqu'ils auront compris de nouveau que les plus libres âmes sont celles qui n'ont peur ni de la vie ni de la mort. » Celles qui chantent plus vite que d'autres et qui ne souffrent jamais sans espérance. Ils savaient cela, les vieux qui ont pris dans leurs mains chacune de ces pierres, alors toutes blanches et moites encore de l'humidité de la carrière, les ont taillées, posées, cimentées, sculptées. Aujourd'hui, une élite seulement traversera la place et entrera dans l'église. Fidèle qu'amène l'habitude, néophyte, surpris par la grâce, et incertain et inquiet, premier appelé de la résurrection nouvelle. » Fin de citation. J'allais assister à la clôture de la mission qui durait depuis 3 semaines et voir, une fois de plus, la rencontre du Christ avec l'âme populaire. Je pensais encore aux cortèges magnifiques du passé qui enveloppèrent cette église, ou celles qui l'ont précédée du reflet des étendards et des armes de parade, au Dagobert de la légende, à Charlemagne qui fut un des dévots de Saint-Denis, à Saint-Louis partant pour la croisade, à Charles Quint conduit en pèlerinage par François Ier, Henri IV. Et songeant à tout cela, j'entrais dans la grande nef aux 7 travées. Elle était pleine, jusqu'au portail, d'auditeurs, non pas bourgeois, non pas endimanchés, mais pris à même la foule que je venais de traverser dans la rue. Hommes du côté de l'Évangile, femmes de l'autre. L'usine les avait tenus depuis leur jeunesse employés, contremaîtres, ouvriers, ouvrières. Ils avaient le stigmate de la vie enfermée et leurs joues, leurs tempes, leurs mains n'étaient pas de celles que le vent fouette. Il s'y était glissé des pâleurs de poison, des blémissures faites par l'air vicié, par l'alcool, la préoccupation, l'usure précoce. Les yeux avaient peu de jeunesse et souvent beaucoup de rêves. C'était bien de la souffrance humaine qui était venue pour espérer de la tendresse déçue qui venait chercher plus haut. Un prêtre parlait. Il appelait au renouvellement d'eux-mêmes, à l'aveu des fautes, à la liberté des âmes, tous ces frères prisonniers de tant de servitude, il leur promettait ce bien qui n'est en aucun plaisir, en aucune étude, en aucune compagnie ou solitude, en aucune richesse. La paix, dont la plupart des hommes savent le nom seulement, comme celui du paradis. Eux, ils vivaient dans la guerre, la concurrence, les jalousies, les injures, les mépris, dans le bruit qui ne cesse pas, même tout à fait dans le sommeil. Et sans doute, s'ils écoutaient la parole, ils continueraient d'habiter le court horizon des mêmes murailles et de faire les mêmes gestes et de souffrir de plus d'une manière. Mais ils auraient en eux le bien qui est acquis au prix mystérieux de toute la volonté, en une seconde, mais dur à vouloir. Le prêtre disait cela avec une ambition fervente et des mots bien simples que des générations avaient entendus ici même. Il résonnait jusqu'au fond des chapelles où sont les tombes de tant de princes et de princesses. Il donnait toute sa beauté et tout son sens à ce temple magnifique, bâti comme les autres, non pour la mort, mais pour les vivants. Pour ces ouvriers du XXe siècle qui s'étaient réunis afin d'écouter les mots qui nous relèvent. Toutes ces splendeurs d'architecture étaient d'abord pour ces pauvres, et elles n'étaient pas trop éloquentes, puisque la pente est rude et que les choses sont aussi des missionnaires qui ne cessent pas d'enseigner. Je m'étonnais seulement de ne pas les avoir bien comprises. J'étais venue autrefois à des heures qui ne sont pas celles des basiliques. Il faut voir ces vieilles églises pendant les offices du soir, quand la foule les fait vivantes, quand les ombres, à peine dissipées par place, les font comme infinies. Les piliers des bas-côtés, ceux du transept, ceux du chœur, les voûtes, les dalles, les rampes, conduisaient le regard jusqu'à des profondeurs de clair-obscur où il se perdait comme dans les gouffres d'eau et dans les forêts. La grande verrière du chœur recevait encore de la nuit extérieure assez de rayons pour transparaître avec de vagues dessins inachevés. En face du banc d'œuvre, dans la seconde rangée de vitraux, celle qui est bien haut, par-dessus les galeries, la lune éclairait un bout de vitrail. Deux personnages difficiles à reconnaître et tout rouges, comme ceux dont on approche une lanterne. De tous côtés, les ténèbres creusées par la faible lumière des cierges et de quelques lampes immensifiaient les routes par où l'esprit pouvait voyager. On était comme à l'intérieur d'un joyau de topaze brûlé. Les pensées des créateurs de l'œuvre apparaissaient magnifiquement. L'abbé pouvait parler de la paix, et les choses ne le contredisaient point. Il pouvait parler de la grâce qui descend par des chemins secrets et de tout le mystère où nous sommes. Quand il disait le mot de beauté ou celui d'infini, tout le monde comprenait. Je ne sais combien de temps il exhorta les fidèles, mais à un moment, je ne le vis plus dans la chair et je vis à l'entrée du chœur du chapitre le curé de la basilique, un vieillard qui se tenait debout. Et il y avait à côté de lui un enfant avec une grande corbeille. Alors les ouvriers se levèrent. Les hommes, tous les hommes, s'avancèrent en file et ils passaient devant le prêtre qui leur donnait un crucifix. Je les regardais avec émotion. Plusieurs baisaient la croix, d'autres la portaient devant eux à bras tendus, et il y avait un dialogue et un peu d'amour entre eux et l'image sainte. D'autres, avec un reste de respect humain, considéraient les voisins, et ils retournaient vers le bas de l'église, rassurés, parce que personne n'était resté assis sur les chaises. J'en voyais quelques-uns pleurer et quelques-uns sourire bonnement, ceux qui apercevaient dans un coin là-bas, derrière le pilier, une figure de femme brave et pâle, et qui avait eu peur jusqu'au dernier moment que l'homme ne fît pas ce qu'il avait promis. L'Académie française au millénaire de Cluny, 1910. Le centenaire d'une institution nous semble déjà digne de commémoration et d'étonnement. Que faut-il dire d'un millénaire ? Je crois que les lecteurs de journaux, c'est-à-dire la plupart des hommes civilisés, n'ont pas appris sans un peu d'effarement que vous aviez invité le monde savant à célébrer l'anniversaire d'un événement qui se passa en l'année 910, sous le règne de Charles le Simple, au commencement de la féodalité. À cette invitation, l'Académie française s'est empressée de répondre. En l'acceptant, elle a voulu honorer le magnifique souvenir dont vous êtes les gardiens et témoigner sa gratitude à ce grand ordre de Cluny, ou, comme on disait, à cette église de Cluny, qui a eu, dans la France du Moyen-Âge, la plénitude de la mission civilisatrice. Apôtre de l'Évangile et de la paix, gardienne de toute science, fondatrice de toute œuvre de charité, initiatrice de progrès littéraires et de progrès agricoles, créatrice d'un art qu'elle propagea à travers toute l'Europe. À cette beauté morale que je viens d'indiquer correspondait la beauté de l'édifice matériel. Les images et les descriptions anciennes donnent la certitude qu'ici fut bâtie une des merveilles de l'architecture religieuse. L'abbaye était un royaume ordonné d'une ampleur qui oblige à un effort de nos imaginations. Rien ne donne une plus grande idée de cette ville monastique que le récit de la réception de 1245. En cette année-là, comme chacun le sait, l'abbaye de Cluny put héberger en même temps, avec toute leur suite, le pape Innocent IV, qui n'avait pas moins de 12 cardinaux avec lui, le roi Saint-Louis, la reine, la mère du roi, sa sœur, son frère, l'empereur de Constantinople, d'autres princes moins importants, et cependant les chroniques ajoutent, malgré ces innombrables hôtes, jamais les moines ne se dérangèrent de leur dortoir, de leur réfectoire, de leur chapitre, de leur infirmerie, de leur cuisine, de leur cellier, ni d'aucun des lieux réputés conventuels.